Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, dernier jour de campagne, bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Elle a une dernière heure de campagne à partir de ce soir minuit et jusqu'à dimanche 20h. Ce sera silence radio pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Résultat, ils occupent le terrain dans ce journal. Également l'histoire de ce salarié licencié pour avoir déménagé trop loin, et puis cette mise en examen dans l'enquête sur la disparition de la petite Maddy.
Nos deux focus du jour, notre dernier sondage BVA avant le second tour. Emmanuel Macron creuse l'écart, 55,5% d'intention de vote, et on reviendra aussi sur cette campagne. Premier bilan, que faut-il en retenir? A-t-elle finalement été si différente des autres? On en débattra à 12h50.
Notre question du jour sur RTL.fr, regarderez-vous ou écouterez-vous la soirée électorale de dimanche à 20h? Vous dites oui à 46%, non à 52%. Notre météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Ça s'arrange un peu dans le sud.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pluie en Corse ces dernières 24 heures, ça va mieux. Je ne dis pas qu'il fera beau, simplement il y aura un petit peu moins de pluie. On va avoir quelques orages encore dans le sud cet après-midi, entre le Massif central et les Alpes principalement. Pendant ce temps-là, la moitié nord va garder tout le soleil, comme d'habitude. Quant aux températures, elles seront stables, encore assez douces. 14 degrés attendus à Cherbourg, 19 à Reims et Nancy, 20 degrés pour Orléans et Limoges, 21 à Paris et Nîmes et 22 à Lyon.
Merci beaucoup Valérie.
RTL Midi.
Mais d'abord, pour commencer, je vous emmène au camping. Et oui, ce soir et tout le week-end, toute la France sera en vacances. Toutes les zones. Début pour la zone C, fin pour la zone A, deuxième semaine pour la zone B. Résultat, dans le Var, il flotte presque un air de chasse et croisée d'été. La preuve à Saint-Raphaël avec vous, Mickaël Lefebvre.
Dernière partie de foot, dernière baignade dans la piscine. C'est bientôt l'heure de rentrer à Nancy pour Émilie et sa petite famille, avec quand même un petit pincement au cœur.
On a la sensation d'être en été, mais on n'a vraiment pas envie de reprendre le travail, mais bah, il faut bien. Hein.
Mais il reste d'abord à choisir la dernière activité de la semaine.
Tu veux aller au laser game, Alessio, ou tu veux aller où?
Au laser game.
Autour d'un apéro, Nicolas, venu de Besançon avec sa femme et ses quatre enfants, se détend une dernière fois.
On en profite, on va profiter du soleil, de la piscine, de tout ce qu'on peut.
Mais pour Iris, le plus dur commence.
Le retour à la réalité, je passe mon bac cette année, donc ce sera les révisions. Ça changera radicalement d'ici.
Durant le week-end de Pâques, Estherelle Caravaning a affiché complet. Sa directrice, Aurore Laroche, attend maintenant de pied ferme les Parisiens de la zone C.
C'est vraiment une vraie volonté de venir un peu au soleil, de changer d'air, de respirer. Et ce week-end, nous avons 97 arrivés.
Un chassé croisé sous le soleil et les roches rouges de l'Estérel.
Le reportage de Mickaël Lefebvre dans le Var pour RTL. Si vous devez prendre la route, a priori, pas trop de bouchons. Hein. C'est vert demain, orange aujourd'hui et dimanche, mais seulement en Ile-de-France. Certains vacanciers ont en effet préféré reporter leur départ pour pouvoir voter, c'est ce qu'explique Bison Futé.
La présidentielle, justement, et ses dernières heures de campagne.
Pas ou peu de prise de risque pour les deux candidats qui ont choisi des terrains conquis pour cette dernière journée. Marine Le Pen est à Étaples, dans le Pas-de-Calais, où elle est arrivée en tête au premier tour, presque 37% des voix, Thomas Després.
Oui, on est à quelques mètres de la ville du Touquet, hein, cher au président de la République. Un clin d'œil pour ce dernier déplacement que Marine Le Pen veut à l'image de sa campagne, hein, de la proximité. Alors on l'a vu ce matin au contact des Français, montrer qu'elle était proche d'eux. Elle a pris beaucoup de temps, des photos, des dizaines de photos. Tout sourire, elle s'est même arrêtée aux étals pour déguster un melon. Voilà un melon marocain, Marine Le Pen. Et puis... elle a beaucoup voulu parler également de la mobilisation avec ses électeurs, à 48 heures du premier tour. 48 heures, il faut mobiliser. Des échanges où elle a également parlé retraite. Avec Macron, vous prenez perpète, dit-elle. Une dernière formule pour mobiliser et faire le bilan de sa campagne à 48 heures donc du premier tour. Écoutez-la.
Non, je crois qu'on a fait une belle campagne. Je crois qu'on a fait une très belle campagne. On a fait une campagne de proximité, une campagne de terrain. J'ai rencontré des dizaines de milliers de Français. J'ai parlé avec eux de tous les aspects d'ailleurs de mon projet et non, j'ai pas de regrets dans cette campagne.
Marine Le Pen qui pendant toute cette campagne s'est appliquée à ménager son emploi du temps pour éviter la fatigue. Aujourd'hui, elle donne tout, elle met ses dernières forces dans la bataille alors que le président de la République lui aussi fait campagne.
Thomas Després en direct d'Étaples dans le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron justement qui est attendu à Figeac, lui dans le Lot, il y a récolté un peu plus de 28% des voix le 10 avril, Vincent Derosier.
Oui, c'est vrai, il est arrivé en tête, mais d'une courte tête, Amandine, devant Jean-Luc Mélenchon. C'est donc une sorte de déplacement deux en un aujourd'hui, où Emmanuel Macron va appeler à aller voter dimanche, car, dira-t-il, rien n'est joué. Il va aussi défendre ses réformes sociales pour draguer une dernière fois les électeurs insoumis. Et puis, cette dernière virée de campagne, c'est surtout, disons-le, une question d'image. Peu importe le son, aujourd'hui, les derniers moments du candidat, ça sera ici, dans le Lot, au milieu des petites maisons de pierre ocre et sous les halles du marché de Figeac. Lors du débat face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron avait vanté nos ruralités à plusieurs reprises. Eh bien, la dernière impression qu'il veut laisser aux Français, c'est qu'il n'est pas seulement le président des villes, mais aussi le président des territoires.
D'accord.
Vincent de Rosier, Figeac, dans le Lot pour RTL.
Et on vous rappelle notre dernier sondage BVA, et on en parlera tout à l'heure, 55,5 pour Emmanuel Macron, 44,5 pour Marine Le Pen.
On vous parlait ce matin sur RTL de ce salarié licencié après avoir déménagé trop loin de son travail. Il avait quitté les Yvelines pour la Bretagne. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Forcément, après deux ans de pandémie, ça interpelle. Est-ce que tous ceux qui ont déménagé pendant le Covid doivent s'inquiéter?
Oui, je pense qu'il y a deux, trois auditeurs qui nous écoutent en suant à grosses gouttes. On les rassure, la réponse est plutôt non. En fait, tout dépend de si vous faites des allers-retours domicile-travail tous les jours ou pas. C'est ce que m'a expliqué l'avocate Muriel Parient du cabinet Ashurst.
S'il y a du télétravail deux jours à trois jours par semaine, ce qui est un petit peu la moyenne de ce qu'on retrouve dans les entreprises aujourd'hui après la Covid, et que vous devez vous rendre que deux jours par semaine à votre lieu de travail, la question est quand même un petit peu différente. Pour moi, cette décision de cour d'appel ne fait pas de jurisprudence, parce qu'on est vraiment dans un cas quand même assez particulier où le salarié ne pouvait pas télétravailler et a lui-même demandé sa mutation dans un lieu plus proche.
Une mutation qu'il avait demandé pour, je cite, « éviter la fatigue des trajets ». C'est là qu'il s'est tiré une balle dans le pied, puisque ce qui a motivé son licenciement, ce n'est ni le déménagement, ni une baisse de ses performances au travail à cause des longs trajets, mais bien sa mise en danger. Faire 4 heures de route aller, 4 heures retour pour travailler, c'est risquer un accident. Accident dont l'entreprise aurait pu être en partie désignée responsable.
Pierre Herbulot du service économie de RTL. Le groupe Renault publie un chiffre d'affaires en baisse, moins 2,7% au premier trimestre. La conséquence de la pénurie toujours de semi conducteurs, mais aussi, et dans une moindre mesure, de la guerre en Ukraine.
La guerre, justement, et la Russie annonce désormais vouloir prendre le contrôle de tout le sud de l'Ukraine et du Donbass.
Une région où les combats font toujours rage. Vincent Serrano, vous êtes en route vers la ligne de front et vous avez rencontré des militaires qui en reviennent.
Oui, dans une petite ville à l'est du pays, on est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Donbass, on est dans cette base militaire. On ne peut pas vous donner la localisation précise pour des raisons de sécurité, évidemment. Je me tourne sur la droite, je vois des missiles, des roquettes, des lance-roquettes empilées les uns sur les autres, des obus également, et juste derrière moi, de l'autre côté, des femmes qui sont en train de préparer à manger pour ces soldats qui reviennent tout juste du front, notamment le chef de cette caserne, entre guillemets. Andriy, vous revenez du front il y a quelques jours seulement. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre état d'esprit ? Gloire à l'Ukraine, d'abord. Et Andriy nous explique ensuite qu'il fait ça surtout pour ses petits-enfants, pour qu'ils n'aient pas un jour à voir toutes les horreurs de la guerre, les scènes horribles qu'ils viennent voir sur le front. C'est vraiment ce qu'il tenait à nous dire. Andriy qui va donc rester ici pendant quelques jours, il ne le sait pas forcément, on peut peut-être l'appeler demain pour retourner sur la ligne de front, il me l'a dit à plusieurs reprises, ça ce n'est pas un problème, je suis déjà prêt à repartir.
Vincent Serrano avec Jonathan Griveaux, envoyé spéciaux de RTL en Ukraine. La justice française annonce avoir délivré un mandat d'arrêt international à l'encontre de Carlos Ghosn qui vit toujours au Liban. C'est la suite de l'enquête instruite à Nanterre pour abus de biens sociaux, blanchiment et corruption. Et puis c'est sans aucun doute l'un des faits divers les plus connus de ces 20 dernières années, la disparition de la petite Maddy. 15 ans après les faits, un homme a été mis en examen hier en Allemagne, élément important mais pas vraiment un rebondissement. Marie Billon, bonjour, on vous retrouve en direct de Londres. Les enquêteurs britanniques estiment même que ça ne change rien pour eux.
Voilà, ce que dit la police métropolitaine de Londres ce matin, c'est que l'enquête, une enquête pour personnes disparues appelée Opération Grange, continue, mais comme avant, rien de neuf. La police ne commente pas non plus sur la rumeur datant du mois dernier selon laquelle cette enquête pourrait être fermée à l'automne. Mais ce qui semble clair, c'est que le fait nouveau que Bruckner soit mis en examen en Allemagne ne fait pas évoluer le dossier, puisqu'il s'agirait d'une décision administrative. C'est en effet pour éviter que l'affaire ne soit prescrite au Portugal le mois prochain, quand ça fera 15 ans que la petite Maddy aura disparu, que le statut du suspect a été modifié. Scotland Yard serait frustré des manques d'avancées. Les enquêteurs britanniques ont de moins en moins de moyens financiers et de personnel dédié au dossier. Les parents de la petite Maddie, eux, ne font pas de commentaires. Ils ne réagissent désormais que lors des moments vraiment cruciaux. Mais que l'affaire revienne sur le devant de la scène et la une des journaux ne peut que cultiver l'intérêt de la population pour la petite Maddie et donc faire pression pour que Scotland Yard ne ferme pas cette enquête.
Marie Billon en direct de Londres pour RTL. Et puis c'était il y a 16 ans, jour pour jour. Nancy remportait la Coupe de la Ligue face à Nice et se qualifiait pour la Coupe d'Europe, souvenez-vous.
Voilà la Coupe de la Ligue, elle est à Nancy officiellement. La belle image, on l'a pressentie, on a vu arriver les deux gardiens tout en dernier. Cette coupe qui tend vers le ciel le samedi dans le Stade de France. Et tous ces drapeaux blancs et rouges, le virage nord bien sûr.
Et c'était le 22 avril 2006, 16 ans plus tard, le club est au bord du précipice et pourrait se retrouver relégué en national, en 3e division dès ce soir. Nancy qui joue face à Quevilly.
Et au commentaire, c'était
C'était Ludovic van de Kerkhove, vous ne l'avez pas reconnu ?
Bien évidemment.
Notre rédacteur en chef adoré.
Mais c'est pourquoi il est là. Il est là.
C'est pas lui qui a sorti l'archive. Hein,
bien sûr, mais on est vendredi. Il n'y est pour rien, dit-il. On est vendredi et il est là.
Mais
donc je le félicite. Notre premier sondage, notre dernier sondage, BVA, avant le second tour, Emmanuel Macron qui creuse l'écart 55-5, on en parle dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud. Présidentielle 2022, J-2.
Et à deux jours du second tour, dernier jour de campagne, donc on l'a entendu il y a quelques instants, dernier sondage aussi, selon notre baromètre BVA pour RTL et Orange. Emmanuel Macron l'emporterait dimanche avec un peu plus de 55% des voix. Il est crédité de 55,5% d'intention de vote, plus 1,5 point en une semaine. Alors le débat de mercredi a-t-il changé la donne ? Les jeux sont-ils faits ? C'est le premier débat de RTL Midi avec nous. Adélaïde Zulfikar-Pazik, bonjour Adélaïde.
Bonjour.
Directrice du département Opinion de BVA et Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL. Bonjour,
bonjour
Benjamin. Plus de 10 points d'avance donc désormais pour Emmanuel Macron. Adélaïde, est-ce que c'est plié ? Vous allez me dire non parce que c'est jamais plié avant dimanche, mais bon.
Disons que le président peut aborder le second tour avec sérénité, je vais le dire comme ça. Même s'il faut quand même souligner que le rapport de force est beaucoup plus serré qu'il ne l'était en 2017, parce qu'il faut rappeler qu'il avait emporté avec 66% des suffrages, c'est-à-dire 30 points d'écart avec Marine Le Pen. Là, on parle d'une dizaine de points. Mais néanmoins, c'est vrai que je ne vois pas trop ce qui pourrait complètement bouleverser la donne d'ici à dimanche. Il faudrait, à mon avis, un élément de nature majeure qui pourrait venir discréditer complètement Emmanuel Macron sur ce qui est sa force, sa stature présidentielle. Même, je pense, à ce qu'on appelle la participation différentielle, s'il y a des effets de mobilisation de dernière minute dans un sens ou dans l'autre, je ne pense pas que ça puisse complètement changer la donne, mais peut-être qu'en disant ça...
Si Emmanuel Macron est à 55 ou 56, ça veut dire que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont voté pour Emmanuel Macron. En tout cas, qu'ils vous ont dit qu'ils allaient voter pour Emmanuel Macron. Et c'est là que la question se pose. Est-ce qu'il peut exister chez les électeurs de Mélenchon ce qui existait avec les électeurs de Le Pen ? C'est qu'ils ne disent pas au fond ce qu'ils vont vraiment faire.
Je pense que c'est un peu un mythe, cette histoire de vote caché, et ils le disent assez clairement d'ailleurs dans l'enquête, parce que aujourd'hui, ce que nous disent les mélenchonistes du premier tour, c'est que pour majorité, ils ont l'intention soit de s'abstenir, soit de voter blanc. Ils sont une proportion de l'ordre de un quart à avoir l'intention de voter pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, ça s'est amenuisé depuis la semaine dernière. Et ils sont près de 20% à dire qu'ils vont voter pour Marine Le Pen. Et ils le disent, c'est le double par rapport à 2017. Ils l'affirment assez clairement. Après, ce chemin qui a été parcouru, qui a permis à Emmanuel Macron d'agrandir l'écart par rapport à la semaine dernière, c'est plutôt le fait d'électeurs plus traditionnels, on va dire des partis comme le PS, les Verts, et les électeurs de Valérie Pécresse également, on voit qu'il y a des reports de voix cette semaine qui sont bien meilleurs qu'ils ne l'étaient la semaine dernière, donc ils ont fait du chemin depuis le premier tour et leur déception de ne pas voir leur champion se qualifier.
On va revenir dans un instant sur le détail, Adélaïde, de ce sondage, parce qu'il y a plein de tiroirs à tirer. Mais d'abord, Benjamin, est-ce qu'il y a un score, par exemple, en dessous duquel ce serait vraiment une défaite pour Marine Le Pen ? Vous allez me dire sous les 50%, mais j'imagine que 45 et 40, c'est pas la même.
Ben exactement. J'allais vous dire que symboliquement, 45%, ça serait un bon score quand même pour Marine Le Pen, hein, c'est-à-dire près de 10 à 12 points de plus que la dernière fois. Donc très clairement, ça veut dire qu'elle aura attiré vers elle des électeurs qui ne se portaient pas naturellement sur son nom. Donc oui, bien évidemment qu'il y a un chiffre symbolique et je pense que c'est celui-là. Ils ne nous disent rien, bien évidemment, dans son entourage, parce que ce qu'ils visent, c'est la victoire et ça serait une démobilisation que de le dire. Mais ça voudrait dire que son avenir change complètement. C'est pas la même chose qu'elle fasse 40% ou 45%. 45%, est-ce qu'elle laisse en friche son parti? Est-ce qu'elle se retire ou est-ce qu'au contraire, elle se dit ben, j'ai encore une chance pour la fois prochaine et je peux à nouveau me relancer.
Elle n'avait pas annoncé que ce serait sa dernière campagne.
Eh bien, elle a été plus au début, il y a un an, elle le disait. Eh bien, après, on a senti qu'elle aussi. Alors, est-ce que c'est encore une fois pour dire qu'il ne faut pas démobiliser ?
Elle a dit
que
ça dépendra.
Oui, enfin, on a senti qu'en tous les cas, elle était moins sûre que c'était sa dernière campagne. Mais de toute façon, encore une fois, c'est compliqué pour elle de le dire aussi fortement parce que ça veut dire qu'elle laisse son parti sans leader, sans personne, elle le laisse en jachère. Et ça, ça serait un peu hypothéquer l'avenir du Rassemblement National et puis laisser peut-être éventuellement les clés à quelqu'un d'autre, donc Éric Zemmour. Et c'était pas du tout la même chose il y a quelques mois quand on voyait monter Éric Zemmour. Oui, elle avait des incertitudes. Oui, il y avait une fragilité encore au mois de février. Mais non, c'est plus la même chose. C'est plus le même scénario.
Marine Le Pen qui a considérablement changé d'image, hein, on le voit dans le baromètre. 65% des Français aujourd'hui considèrent que le RN est un parti comme les autres, Adélaïde.
Oui, en fait, c'est une entreprise de dédiabolisation qui a fonctionné pour elle-même et pour son parti. Pour elle-même, on l'a déjà vu un petit peu la semaine dernière, mais ça se consolide même cette semaine. On voit qu'elle apparaît comme étant ayant des convictions profondes pour 7 Français sur 10, c'est énorme. Et pour plus de 4 Français sur 10, elle apparaît plus proche des Français, plus proche de leurs préoccupations, comprenant et défendant leurs valeurs, sympathiques également, ce qui sont des caractéristiques qui font défaut à Emmanuel Macron. Donc elle a réussi à polir son image et dans le même temps, vous l'avez dit, à polir l'image du parti qui est considéré par les 2/3 des Français comme un parti comme les autres. Et aussi, c'est un autre résultat intéressant qui certes continue d'être considéré par une majorité de Français, un peu moins de 6 sur 10, comme un parti d'extrême droite, mais c'est dans des proportions nettement moindres qu'en 2017. On était à 71% plus que 58%, donc c'est vraiment une modification globale de l'image du parti qui fait qu'effectivement la question se pose de quel est son avenir à elle après, parce qu'elle est quand même en grande partie responsable de cette évolution.
Benjamin, du côté d'Emmanuel Macron, il y a un score plancher.
Écoutez, là aussi, c'est sûr que 66%, on voit mal comment il pourrait les rééditer. Maintenant, si c'est 49-51, ça change là aussi la donne. C'est pas le même scénario.
En fait, jusqu'à 55-45, voilà. C'est sans doute une victoire pour Emmanuel Macron.
Bien sûr.
En dessous de 55...
Exactement. Vous avez tout bien résumé.
Je vous écoute, cher ami.
Et je pense en effet qu'il y a ce seuil symbolique de 45-55. Parce que bien évidemment, être réélu avec 55% des scrutins, on pourra pas des suffrages, on pourra pas dire que c'est un désaveu pour Emmanuel Macron, parce que un quinquennat 5 ans qui a été difficile, qui a été maillé de crises sociales notamment, eh bien on pourra dire quand même qu'il a réussi à transformer l'essai de ce quinquennat avec un second quinquennat, et puis surtout il sera le seul président à être réélu hors cohabitation, bien ce sûr. Qui n'est pas rien quand même tout de même. Mais encore une fois, pour Marine Le Pen, 45% des voix, ce n'est pas négligeable, loin de là.
Le score, il est important, Adélaïde, puisque toujours dans notre baromètre, on voit que les 2/3 des Français ne souhaitent pas qu'Emmanuel Macron ait une majorité à l'Assemblée nationale s'il est réélu. Ça veut dire qu'ils veulent une cohabitation.
Oui, ça veut dire ça, et c'est vraiment la résultante de tout ce qu'on a vu pendant cette campagne et ce qu'on a vu au soir du premier tour. On a parlé de France fracturée avec des électorats, enfin la France qui va bien d'un côté, qui vote Emmanuel Macron, la France qui va moins bien, qui vote soit pour Marine Le Pen, soit en partie pour Jean-Luc Mélenchon, avec des préoccupations différentes. Et donc on sent que cette France, elle est divisée. Et ce n'est pas, Benjamin a rappelé quand même ce qui s'est passé pendant le quinquennat, la crise des Gilets jaunes, il y a eu des épisodes.
Mais une cohabitation avec qui?
Ben oui. Avec quel côté? Alors, à droite ou à gauche?
J'ai envie de répondre, chacun voit midi à sa porte. Ceux qui souhaitent le plus la cohabitation, ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui ont entendu son appel. Et qui sont... mais cela étant, les électeurs de Valérie Pécresse, aux 2/3, souhaitent aussi une cohabitation, les électeurs de Yannick Jadot, donc chacun espère une coalition. Qui correspondent à sa sensibilité politique.
Même si on peut dire que pour l'instant, ça peut être considéré aussi comme un mouvement d'humeur. Est-ce que les Français n'ont pas envie de voir ceux qui n'ont pas voté notamment pour ces deux candidats-là, la même affiche, et se dire, bon, ben, il y a un troisième tour possible et on va se rattraper à ce moment-là. Mais attention, sous le contrôle d'Adélaïde, la participation n'est pas du tout la même aux législatives. C'était 50% ou un peu plus seulement en 2017. Donc ça veut dire qu'après, il faut quand même faire la démarche d'aller voter le 12 et le 19 juin, je rappelle ces dates, personne ou très peu de gens les connaissent
12
pour
et 19
l'instant.
Juin,
oui, sauf d'ailleurs, ce sera peut-être avancé.
Oui, c'est pas dans l'air pour l'instant.
Bien sûr,
oui.
C'est-à-dire que on prêtait cette intention à Emmanuel Macron pour raccourcir le temps entre la présidentielle et la législative, pour enchaîner en fait.
Oui, mais c'est plus trop dans l'air du temps pour l'instant. Ouais. Pourquoi? Parce que ça veut dire aussi que ça raccourcit le mandat présidentiel. C'est-à-dire que Emmanuel Macron pourrait à ce moment-là, réduire et le reporter à avril 2027. Vous voyez, c'est aussi ça qui est en
Pourquoi
jeu.
Ça raccourcirait
parce
le
que,
mandat
parce qu'à ce moment-là, il serait nommé beaucoup plus rapidement que le 14 mai, c'est la fin de son mandat.
Oui.
Vous voyez. Donc si jamais il décide,
plus tôt d'avancer les élections législatives. Mmh. Ça fait une sorte de micmac institutionnel qui pourrait, eh bien, mettre un terme à son mandat en avril 2027.
Je vous le crois si vous le dites. Alors, nous sommes pour la cohabitation encore pendant 10 minutes avec vous. Et même au-delà, puisque vous allez rester, nous allons cohabiter ensemble.
Cher Benjamin
Sportouche, c'est quelque chose que j'ai décidé unilatéralement.
Parce
que,
bien sûr. C'est pas très démocratique. Mais nous ne
le sommes pas. 12h51, à tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Rien n'est joué. Et les Françaises et les Français font leur choix le 24 avril. Et donc rien n'est joué. Donc moi j'appelle toutes celles et ceux qui me soutiennent à redoubler d'énergie, d'efforts, pour convaincre le maximum de Françaises et de Français, pour que le 24 avril, ils puissent voter et soutenir le projet que je porte.
Peuple de France, le moment où tu pourras te rendre justice dans les urnes approche. C'est dimanche. L'heure est venue de te lever.
Alors que la campagne officielle s'achève, ce soir à minuit, on a choisi ce midi sur RTL de dresser un premier bilan. Que retiendra-t-on de ces mois de campagne et de débat, tel ou non, répondu d'ailleurs aux attentes des électeurs. On est toujours avec Benjamin Sportouche, Adélaïde Zulfi-Karpazic. Avec nous également Marie Mollet et Vincent Derosier. Marie, vous suivez la campagne de Marine Le Pen, Vincent, celle d'Emmanuel Macron. Je vais vous poser les mêmes questions assez rapidement à chacun de vous deux. Deux campagnes très différentes, plusieurs mois pour la candidate du RN, quelques semaines pour le président sortant. Quelle image retiendrez-vous, vous qui suivez les candidats, Marie ?
Alors moi, l'image que je retiendrai, en fait, c'est un petit marché de Guadeloupe, un marché traditionnel avec odeur d'acra, des nappes colorées. Marine Le Pen y va pour s'offrir de belles images. Elle sort de sa voiture et là, un comité d'accueil l'attend, assez impressionnant, pour hurler « Le Pen facho, Le Pen dehors, Le Pen dégage ». Elle rentre dans les travées et là, il y a comme un piège qui se referme avec des sortes d'affrontements, de tensions qui montent entre les militants du RN, les militants de gauche, les agents de sécurité qui se tendent. On les avait jamais vus comme ça, honnêtement, de toute la campagne. Et Marine Le Pen qui continue dans les travées en disant « on va aller jusqu'au bout, je ne m'appelle pas Le Pen pour rien ». Pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est parce qu'en fait, on voit là que Marine Le Pen, elle touche aux limites de sa stratégie de dédiabolisation. Elle était venue aux Antilles parce que c'était une terre historiquement interdite au Front National. Jean-Marie Le Pen n'avait pas pu se poser sur le tarmac en 86. Elle y va pour montrer que cette fois, elle peut aller partout. Mais en fait, non, elle ne peut pas aller partout. Et elle ne peut pas encore aller partout, même après 10 ans de dédiabolisation. Et en fait, ça donne un avant-goût de la campagne d'entre-deux-tours, où elle verra le cordon sanitaire se reconstituer une fois qu'elle est seule en piste face à Emmanuel Macron.
Vincent, du côté d'Emmanuel Macron, vous retiendrez quelle scène, quelle image ?
Alors c'est la scène du premier déplacement que j'ai couvert pour RTL sur le terrain dans cette campagne. C'est dans la ville de Dijon. La veille, il était dans le Nord. Ça se passe chez le socialiste François Rebsamen, dans des quartiers populaires. Et là, Emmanuel Macron est dans le bain tout de suite. Il en prend plein la tête, comme la veille dans le Nord, mais sur des problématiques de pouvoir d'achat. Une femme se dit très choquée par sa réforme du RSA, qu'il conditionne à une activité. D'autres lui parlent des retraites, du pouvoir d'achat, des fins de mois possible, du prix de l'essence. D'autres lui reprochent une forme d'arrogance sur ce quinquennat, d'avoir boudé les territoires. Et là, Emmanuel Macron se dit, et on se dit avec lui, que sa campagne va certes être courte, mais que ce ne sera surtout pas un long fleuve tranquille.
Adélaïde, à quel moment, en tout cas dans les enquêtes d'opinion, on a vu les choses se cristalliser, vraiment les lignes.
J'ai presque envie de dire qu'on ne les a pas vues se cristalliser dans les enquêtes d'opinion, parce que la cristallisation, elle s'est faite avant.
Ça a très peu bougé, vous avez raison.
Ça a peu bougé depuis.
C'est ça qui est frappant.
On a toujours Emmanuel Macron.
C'est chronique d'une victoire annoncée.
C'est ça, on a toujours vu.
Chronique même d'un duel annoncé.
Alors même que les Français n'en voulaient pas. Enfin, ça fait des mois et des années que vous nous répétez que les Français ne veulent pas ce duel.
Et en fait, Emmanuel Macron, il a quand même survolé les intentions de vote. Il a toujours été en tête pour le premier tour.
25-26, voilà. Et après la guerre, il est monté jusqu'à 28-29-30.
C'est ça, voilà, pour finir dans cet étiage-là. Et Marine Le Pen a toujours été en deuxième position, a donné autour de pareil, oscillant entre, alors ça dépend d'une période, 17, et puis après elle est montée jusqu'à 23, elle a fini à 23%.
Mais jamais Zemmour n'est venu l'inquiéter.
Exactement, ni Valérie Pécresse. Donc, et en fait, j'ai envie de dire que pour moi, ça s'est cristallisé pendant le quinquennat, au moment du démarrage de la pandémie, qui a permis à Emmanuel Macron d'effacer, en quelque sorte, cette ardoise du début de quinquennat, avec toutes les étiquettes qui sont venues lui coller à la peau, président des riches, les gilets jaunes. Et voilà, il a regagné en popularité avec ce réflexe un peu légitimiste autour du chef de l'État pendant la crise. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont cristallisées. Après, il y a eu d'autres petits moments dans la campagne. Il y a eu Éric Zemmour qui a occupé le terrain en début de campagne. campagne, il y a eu la désignation de Valérie Pécresse, mais jamais vraiment, il y a eu de moments, enfin, en tout cas,
elle
sur la lecture.
Elle ne restera pas dans l'histoire, Benjamin, cette campagne ?
Ah, je ne sais pas, ça. Si, je pense qu'elle restera. Dans... Pour moi, il y a eu deux campagnes, en fait. Il y a eu la pré-campagne, quand même, entre septembre et décembre, où on a vu Éric Zemmour, incontestablement, c'était un phénomène. Il est monté jusqu'à 17%, souvenez-vous. Valérie Pécresse, il y a eu quand même un effet juste après sa désignation. Il y a même eu un sondage où elle a été devant, mais juste un, et Emmanuel Macron. Donc il y a eu cette première phase quand même importante où il y a eu quand même une pré-campagne où on a senti qu'il se passait quelque chose. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu, bien sûr, le Covid qui est revenu devant la scène et l'Ukraine. Et là, tout s'est renversé. Et on a eu la campagne présidentielle qui a été quand même très atone finalement juste avant le premier tour et qui s'est vraiment là cristallisée dans l'entre-deux tours. C'est vrai que même nous, journalistes politiques, on a beaucoup bossé dans l'entre-deux tours.
Et elle est importante cette question parce qu'une campagne électorale, c'est une forme de catharsis et doit quand même répondre à des attentes. Est-ce que les gens sont contents de cette campagne, contents de leurs candidats, contents des programmes, contents des débats? Est-ce qu'il y en a eu assez? Je n'en suis pas certain, Adélaïde. Et si ça ne s'est pas réglé durant cette campagne, il est possible que ça se règle, pourquoi pas, dans la campagne législative, pour le coup, qui est un troisième tour. Mais il y a une forme de déception, me semble-t-il, dans l'opinion.
Ils le disent clairement. Ils disent que la campagne les a moins intéressés. On voit aussi que le vote pour l'un et pour l'autre. Alors pour Marine Le Pen, il y a un certain vote d'adhésion d'une partie de son électorat, mais pour Emmanuel Macron, c'est d'abord un vote pour le président, un vote pour faire barrage, mais c'est encore un vote par défaut. Donc on sent effectivement une déception de la part des citoyens.
Oui, ça les a moins intéressés aussi parce qu'il y avait une actualité importante.
Qui était l'Ukraine. Mais vous allez pouvoir vous exprimer très longuement jusqu'à 14h30, puisque c'est la fin de la campagne aujourd'hui, c'est vendredi, et ensuite vous êtes en vacances jusqu'en 2027. Donc vous avez de la chance, vous travaillez une fois tous les 5 ans, les journalistes politiques. Il est 12h59, la pause, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50
centimes. RTL. Il est 13h.
Jusqu'à 14h30,
les électeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Avant de retrouver les auditeurs dans quelques secondes, le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, c'est ces dernières heures de campagne à partir de ce soir minuit, vous le savez. Hein, fin de la campagne officielle, ce sera le cas jusqu'à dimanche 20h, plus un mot des candidats, plus une image non plus.